Ce balado vous est présenté par les Sentiers Magnus Poirier, un concept unique en son genre situé à Prévost dans les Laurentides et par station7.ca. Bonne écoute! Les grands entretiens, un balado du Salon des aînés de Saint-Jérôme en compagnie de Stéphanie Salomon et Guillaume Nadon. Aujourd'hui, un grand entretien avec la politicienne Dominique Anglade.
Dans les prés, moi mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une.
Ma prochaine invitée est née le 31 janvier 1974 au Québec de parents haïtiens exilés politiques. Après la chute et l'exil de la famille Duvalier, elle part à la découverte d'Haïti avec ses parents en juillet 1988. Voyage qu'elle qualifie doux amer qui a duré 3 ans. C'est à ce moment qu'elle prend conscience de l'importance d'être près des gens pour connaître leur réalité, mais aussi leurs besoins. Grande passionnée de musique, de marche rapide et férue d'histoire, l'implication sociale, le dépassement de soi et le contact avec les gens sont des valeurs qui lui ont été léguées par ses parents et par ses racines haïtiennes. Titulaire d'un baccalauréat en génie industriel de l'École polytechnique de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires, elle a travaillé comme gestionnaire et ingénieure pour de grandes organisations. Députée du comté de Saint-Henri-Sainte-Anne depuis novembre 2015, elle a entre autres été ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et elle occupe depuis le 11 mai 2020 les fonctions de chef du Parti libéral du Québec. En janvier 2010, elle perd tragiquement ses parents, son oncle et son cousin dans le violent séisme qui a secoué et décimé Port-au-Prince en Haïti. Ce drame l'a amenée à publier sa biographie « Ce Québec qui m'habite » qui vient tout juste de paraître. Aujourd'hui, essayons de mettre la politique de côté le temps d'un grand entretien et partons à la découverte de Dominique Anglade. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai évoqué l'apparition de votre ouvrage tout récemment. C'est un processus d'écriture que vous avez amorcé en 2011 sans vraiment savoir que ça allait être publié. Alors, je le disais aussi, vos parents sont décédés tragiquement et subitement, puis vous aviez peur d'oublier les événements et les souvenirs qui y sont rattachés. La mort de vos parents a donc été l'impulsion de l'écriture. Qu'est-ce que vous avez découvert durant le processus d'écriture, autant sur vous ou peu importe sur quoi d'autre?
Alors, effectivement, j'ai commencé à écrire parce que je voulais pas oublier, puis j'avais peur d'oublier comment je me sentais, puis j'avais peur d'oublier ce que mes parents m'avaient transmis. Mais dans le processus d'écriture, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point les événements qui se sont produits ont marqué qui j'étais. Et ça expliquait la personne que j'étais. Alors, des discussions que j'ai eues avec mes parents, des échanges bien particuliers, des événements, des rencontres, et qui expliquent beaucoup la manière dont je pense, dont je réfléchis. Et je me suis dit, dans le fond, dans ce processus d'écriture-là, tu te rends compte pourquoi t'es qui tu es, pourquoi aujourd'hui il y a des choses qui viennent vraiment te chercher personnellement, pourquoi il y en a d'autres, ça te fait moins réagir. Et puis par la suite, j'ai mis tout ça de côté, mais en rentrant en politique, je me suis rendu compte à quel point les gens jugent les politiciens sur une déclaration ou sur un commentaire.
Puis vous en avez parlé beaucoup dans la foulée de la publication de votre livre, entre autres une entrevue que vous avez accordée à Defay le matin avec la métaphore des poupées russes. La grande poupée russe, c'est la Dominique Anglade en période de questions. Est-ce que vous avez de la difficulté avec ce fait-là qu'on ne découvre pas assez les politiciens? Puis qu'est-ce qui expliquerait ça finalement, le fait qu'on qu'on ne connaît pas suffisamment les politiciens?
Ben, je dirais d'abord que c'est ce que l'on connaît, c'est juste ce que l'on voit très rapidement en surface. Puis on n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps d'aller lire sur quelqu'un nécessairement ou d'aller rencontrer la personne, d'aller plus loin. Est-ce que je trouve ça dommage? Oui, je trouve ça dommage parce que les politiciens, au bout du compte, c'est eux qui te représentent et ça te permet de comprendre le lien. La politique, au bout du compte, c'est une affaire de gens, c'est une affaire d'humains, c'est une affaire de contact avec les gens. Puis c'est important que les gens sachent ben, pourquoi cette personne-là fait ce qu'elle fait, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'anime. Moi, j'aimerais ça, que les gens connaissent mieux leurs politiciens, puis peut-être que on aurait collectivement meilleure réputation aussi, parce que, bon, les politiciens, c'est les gens vont se dire « Ah, ben, ils sont tous pareils. Ben, » ben non, ils ne sont pas tous pareils. Puis chacun a une histoire, puis une histoire qui lui est propre.
Et donc, dans le contexte du décès de vos parents, puis on va y revenir un peu plus tard, vous étiez dans un état de choc avec raison, puis vous avez écrit dans votre livre, et je vous cite, « Je peux lancer des initiatives, je peux proposer de nouvelles manières de faire, je peux même contribuer à coordonner quelques activités que ce soit, mais je ne peux pas raconter. » Donc ça, c'était dans un contexte où est-ce que vous aviez perdu vos parents. Est-ce que donc la décision de publier votre biographie était bien assumée ou si vous aviez une certaine gêne, une timidité à le faire parce que vous venez révéler au grand jour finalement des éléments très personnels de votre vie?
Bien, je me suis posé la question. Je me suis dit, lorsque j'ai repris le manuscrit que j'avais écrit en 2011, j'ai relu, j'ai dit c'est extrêmement personnel, mais tu ne peux pas vouloir à la fois raconter une histoire puis pas y aller complètement. Je dis, ou bien tu y vas ou bien tu y vas pas. Puis la personne que je suis, moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet qu'on ne devrait pas pouvoir aborder. Et puis je me suis dit, ben, je vais dire exactement comment je me sens, qui je suis. Et je pense que c'est plus sain comme exercice comme ça. Chacun fait ses choix. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, tu te révèles beaucoup là-dedans. Ben oui, mais et alors? Ça permet aussi de montrer aux gens que rien n'est parfait dans le monde. Les drames, ça peut vraiment rassembler des gens, ça peut vraiment unir le monde.
Mais transformer aussi les gens, tu sais, parce que vous, ça vous a transformé aussi le séisme en 2010 quand même, là.
Ça m'a amené à faire un certain nombre de constats de ce qui avait été important dans ma vie puis de ce que je voulais transmettre à mes enfants. Les valeurs fondamentales, comme je dis, qui t'animent, ça te rappelle ce que ta mère t'a dit par rapport à des personnes vulnérables, ça te rappelle ce que ton père t'a dit par rapport au dépassement de soi, de jamais lâcher. Et je pense que c'est des choses que tu portes en toi dans des moments plus difficiles.
Puis il y a plusieurs années, puis vous en parlez aussi dans votre livre, vous avez entendu une analogie qui vous est toujours restée en tête. Donc, de juger une personne sur une parole ou sur un geste posé, c'est comme ouvrir un livre de 300 pages à la page 114 et porter un jugement à la seule lecture de cette page. Et cela vous a fait beaucoup réfléchir. Pourquoi?
Bien, ça, c'est le jugement facile que tout le monde a par rapport à des gens. On se dit, ah, telle personne, elle est comme ci, ah, telle personne, elle est comme ça, mais on ne connaît pas les gens. Et un des souhaits que j'ai formulé d'ailleurs dans le livre, c'est de dire que j'espère que les gens vont se reconnaître à un moment donné ou à un autre, mais j'espère surtout qu'il va donner le goût des autres, le goût de découvrir davantage. Puis on vient de vivre des moments difficiles au Québec, comme partout dans le monde d'ailleurs, avec la COVID. Puis le mot bienveillant, c'est le mot qui me vient en tête, où on doit s'occuper les uns des autres, on doit se soucier de ce qui se passe dans la vie des gens, essayer de s'entraider. Puis j'ai l'impression que c'est un peu... en étant ouvert, en racontant les choses, en n'ayant pas de tabou, qu'on parvient à toucher les gens.
Et donc, puis vous avez dit par contre que c'est vraiment en entrant en politique active que vous avez éprouvé ce besoin de raconter. Est-ce que c'est parce que vous sentiez qu'il y avait une distance, un clivage qui s'installait, puis que là, vous avez dit en devenant à la tête, par exemple, d'un des principaux partis politiques, est-ce que c'est vraiment là que vous avez réalisé, parce que vous avez réalisé qu'il y avait une distance qui était de plus en plus marquée?
Oui, puis dans le livre, en fait, je raconte l'anecdote où à un moment donné, je monte dans un taxi, puis le gars, il me parle, il me dit « Ah, Madame Anglade », il dit « Ah, ben oui, bonjour », etc. Puis on se parle 5 minutes, puis à la fin, il me regarde, il dit « Madame Anglade, peux-tu vous dire quelque chose? » Je dis « Quoi? » Il dit « Vous êtes vraiment plus fine en vrai qu'à TV. » Fait que je me suis dit « Oh, ben, tu dis, est-ce que c'est un compliment vraiment? Pas sûr, mais c'est ça, c'est ce contact humain. Puis ce que j'aime de la politique, c'est ce contact humain qu'on n'a pas eu d'ailleurs dans la dernière année. Mais c'est ça qui est le fun, d'aller rejoindre les gens, d'aller comprendre, d'aller chez eux, s'installer, comprendre comment ils vivent, etc., leur réalité. Parce qu'au bout du compte, comme politicien, t'es quoi? T'es un porte-voix. Tu portes la voix de personnes qui peut-être ont moins la chance de pouvoir s'exprimer. Et puis, c'est une capacité d'agir, la politique.
En juillet 1988, Dominique Anglade, à l'âge de 14 ans, vous êtes partie à la découverte de Port-au-Prince. Donc, la passion pour vos parents de leur pays natal vous marque profondément et c'est ce qui vous donne envie, comme vous dites, d'être sur le terrain, d'être près des gens, de leurs préoccupations. Et vous dites que, donc, pour connaître la réalité et les besoins des gens, il n'y a rien de mieux que d'être parmi eux. Et je veux revenir à ce qu'on a entendu en préambule avant le début de l'entrevue, c'est la chanson de Félix Leclerc qui a écrit, qui l'a interprétée en 1951. Et donc, quelle est la signification chez vous de cette chanson-là? Parce que vous y faites référence à deux moments cruciaux dans le livre, notamment parce que ça rend hommage au métier de géographe de votre père, mais aussi vous l'évoquez cette chanson-là quand vous avez sillonné 30 000 kilomètres au Québec avant la pandémie. Alors, c'est quoi la signification exacte de cette chanson-là?
Alors, moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. C'est la découverte du territoire, c'est la découverte des gens, c'est la curiosité d'aller comprendre ce qui se passe ailleurs. C'est le voyage. Ce sont beaucoup de concepts en même temps, mais au bout du compte, c'est notre humanité. C'est ça qu'on voit. C'est ça que Félix Leclerc nous faisait découvrir également quand il raconte. Bon, c'est une de ses chansons parmi tant d'autres, mais celle-là me marque parce que je les vois, ces souliers qui se promènent, je les vois qui découvrent. Puis ces souliers-là, ils ont un vécu, ils ont une histoire, ils racontent quelque chose. Et mon père était un géographe qui voyageait beaucoup. Donc, quand on était petit, on voyageait beaucoup au Québec. Mais après ça, en Haïti, ils ont fait tout le tour de l'île avec nous. Et il n'y a rien de mieux que pour comprendre les choses. Rien de mieux que ce terrain-là.
Et donc, ça fait quoi, cette chanson-là? Et un jour, je vous ramène dans le passé, Dominique. Ta mère, Mireille, a craqué. Elle a été confrontée à des ennuis de santé mentale. Et tu as dit que c'était un des passages les plus douloureux à écrire dans ta biographie. Et dans les dernières années, tu as souvent pensé au tabou de la maladie mentale en regardant notamment les femmes autour de toi. C'est pas surprenant parce que ta mère était une féministe. Et donc, tu t'es d'ailleurs posé la question sur ce qui avait mené ta mère à vivre cet état dépressif-là. Et tu t'es demandé à un moment donné si elle menait pas de front trop de projets simultanément. Qu'en est-il de toi? Parce que dans ta biographie, on remarque qu'il y a souvent plusieurs projets simultanément dans ton agenda.
Ouais.
Qu'en est-il de toi? Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu as déjà eu peur de craquer?
Je ne peux pas te dire ça. J'ai une personnalité très différente de celle de ma mère. Et d'ailleurs, je pense que dans le livre, au moment où je raconte que une cousine de mon père me dit « Dominique, attention à toi, etc. » parce que tes parents sont décédés, bon, il y a toute cette histoire. Puis,
oui, elle vous encourage à les consulter.
Elle me dit « Va consulter, etc. » Puis je parle à mon chum qui est super rationnel, qui me dit « Non, t'as pas besoin de ça, etc. » Donc, ce que j'ai pas fait, j'ai jamais senti ça. Mais c'est pas parce que je l'ai pas senti que ça aurait pas pu arriver, que ça aurait pas pu être... j'ai juste une personnalité qui ressemble beaucoup à celle de mon père, plus qu'à celle de ma mère. Mais ça arrive à n'importe qui, ça arrive à n'importe quel moment. Et on doit pouvoir aussi se poser la question, est-ce que je vais bien? Est-ce que je dors bien? Puis je le mentionne aussi, moi, je fais toujours attention à mon sommeil. Tu sais, quand je dors, l'important, là, c'est qu'on dorme bien, puis après ça, le reste va suivre. Je peux pas dire que ça m'est arrivé, mais je veux pas qu'en disant ça, ça vienne cautionner le fait que ça arrive qu'aux autres ou quoi que ce soit du genre. Au contraire, je me dis, il faut que les gens soient très sensibilisés à ces questions-là. C'est arrivé à ma mère, ça a eu des répercussions sur moi, sur ma sœur, sur son travail, sur son emploi. Puis la belle histoire, quelque part, entre guillemets, là-dedans, c'est que tu peux être traité, tu peux t'en sortir, puis tu peux rebondir, puis il y a des ressources qui sont disponibles par rapport à ça. Mais ça m'a toujours donné un œil très vigilant par rapport à cette question-là. Et je crois que la santé mentale, c'est encore une fois, c'est encore et toujours l'enfant pauvre de la santé, puis qu'on devrait avoir accès à un système universel pour les enjeux de santé mentale.
Puis est-ce que vous diriez que vous mettez en place des mécanismes pour éviter justement de tomber dans un état dépressif? Là, vous parlez de votre sommeil, mais quand vous prenez aussi des grandes décisions, par exemple, de vous lancer à la course à la chefferie, vous voulez avoir l'aval de votre mari, est-ce que ça fait partie des manières de faire pour pouvoir assurer un équilibre?
Mais moi, ce qui m'anime profondément, ce qui vient me chercher, c'est le défi, c'est l'idée que tu es capable de contribuer. Ça m'allume beaucoup, ça me stimule beaucoup. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça va les stresser. Les gens vont vous dire « Ah, moi, je ne ferai jamais de politique à cause de toutes les critiques, etc., qu'on reçoit, puis je ne ferai jamais ce genre de choses-là. » C'est vrai qu'il y a ce volet-là, mais ce qui est super en balance, c'est de se dire « Est-ce qu'on est capable de changer des choses? Est-ce qu'on est capable de changer un système? Est-ce qu'on est capable d'amener de nouvelles idées? » Moi, ça m'allume plus qu'autre chose. Mais chacun est fait différemment.
Comment vous faites justement pour affronter ces critiques-là? Et évidemment, avec les médias sociaux, c'est encore plus prééminent, je dirais. Comment vous faites pour pouvoir garder justement cet équilibre-là avec toutes les critiques qui peuvent arriver à vous sur les médias sociaux? Est-ce que vous lisez ce que les gens écrivent?
Moi, les affaires négatives, là, j'essaie de pas les lire. Honnêtement, là, je me fais ce plaisir-là. Si je sais qu'il y a des affaires négatives qui vont être écrites, là, je m'assure que l'équipe les lise pour qu'on sache ce qui se passe quand même. Mais moi, je prends pas le temps de lire ce genre de choses-là parce que c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant, ça te stimule pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est les critiques constructives. Ça, oui. Je veux dire, quelqu'un te dit, par exemple, telle affaire, c'était bien, mais t'aurais dû faire telle chose, t'aurais dû penser à telle affaire, t'aurais dû mieux expliquer, peu importe. Ça, moi, les critiques constructives, j'adore ça parce que je déteste la complaisance. Là. Donc, j'aime quand les gens ne sont pas complaisants. Mais les affaires gratuites, là, il y en a tellement, sur toutes sortes de sujets, c'est ridicule. Là. Alors, si tu perds ton temps là-dedans, puis ça rentre dans ta tête, c'est de la mauvaise énergie dont t'as vraiment pas besoin. Puis, c'est quoi, pour toute critique négative que tu vas toujours avoir quelqu'un pour te dire « Ah, ben on est content de ce que vous avez fait, puis bravo, continuez. » Donc, il faut vraiment arriver à équilibrer les choses.
Vous êtes arrivée comme étudiante à Polytechnique de Montréal 3 ans après la tragédie qui a enlevé la vie à 14 femmes. Les traces laissées par ce drame, vous dites, qui étaient omniprésentes, mais ça demeurait très tabou. Vous parlez même de déni. Racontez-nous comment vous avez vécu là, votre arrivée à cette institution dont les blessures du massacre étaient encore marquées au fer rouge. Comment vous avez vécu votre arrivée à Polytechnique?
Alors, mon alma mater Polytechnique, que j'adore parce que j'ai vécu 4 années magnifiques là-bas. Mais quand je suis arrivée, c'est comme si la tragédie s'était passée à des kilomètres de là. Les gens n'en parlaient pas parce que c'était trop récent, c'était trop dur. C'était trop dur. Ça a tellement été un choc pour l'institution, un choc pour la société en général, mais pour l'institution elle-même, pour les étudiants qui y étaient. Et moi, j'avais la volonté, je me suis fait, j'étais présidente de l'association au bout de 5 ans après le drame, puis j'aurais aimé qu'on en parle davantage, mais je voyais bien que c'était pas possible. Les gens étaient meurtris. Et il fallait accepter ça aussi, il fallait accepter le fait.
Mais ça se traduisait comment, ça? C'était dans le non-dit?
Dans le non-dit. T'arrives et tu dis, moi, j'oublierai pas celle qui travaillait à l'association étudiante, une employée de l'association étudiante. Il y avait des journalistes qui venaient le 6 décembre, puis ils disaient, je veux pas leur parler. J'ai dit, mais ils vont juste, je veux pas leur parler. Je veux pas, c'est tout. Je veux pas. Les gens avaient de la difficulté à aborder le sujet. Une amie dont je relate un peu la discussion dans le livre qui dit qui a complètement disjoncté juste à l'idée que l'on puisse faire souligner l'anniversaire du 6 décembre. Ce sont des signes. Et tu le sais, tu es dans l'école, là, tu le sais, ça se sent, puis tu tiens un discours qui calme un peu les esprits. Et par contre, les journalistes à l'extérieur avaient... moi, je me souviens, à Polytechnique, on écrivait des chaque année, on publiait dans le Polyscope, évidemment. Puis il y avait toujours des journalistes pour dire « Ah, ce qui se passe à Polytechnique, c'est terrible, les relations entre les filles puis les gars, etc. » Alors que Polytechnique, j'ai vécu de très, très beaux moments là-bas, puis j'ai jamais senti qu'il y avait un enjeu homme-femme. Mais bon.
Parce que, donc, la portée, la signification de la tuerie a évolué. En vous, votre père concluait qu'il s'agissait inévitablement d'un crime misogyne, alors que vous prétendiez qu'on ne pouvait pas le lier à un acte de violence fait aux femmes. Votre inconscience vous menait donc à banaliser les choses pour éviter de bouleverser les esprits dont vous avez parlé un peu plus tôt. Qu'est-ce qui a fait évoluer votre pensée? Est-ce que c'est en même temps que le reste de la société? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Le temps. Le temps, la distance... mon père et moi, on a eu des conversations épiques à ce sujet-là parce qu'il disait tu veux pas voir ce que c'est. C'est un acte contre les femmes, c'est délibéré, tu veux pas le voir. Puis la réalité, c'est qu'on veut pas voir. On veut pas voir parce que c'est trop difficile, on veut pas voir parce qu'on le vit dans le quotidien. Mais avec le temps puis le recul, t'as pas le choix que de nommer les choses. Et je parle beaucoup de l'importance de nommer les choses dans la société. Parfois, il y a des mots qu'on veut pas utiliser parce qu'on se dit « Ah non, ça, c'est trop chargé comme mot. » Mais pourtant, ce sont les bons mots. Il faut qu'on soit capable de se le dire. Et ça permet aussi, en les nommant, de poser des gestes qui nous permettent d'éviter qu'on retombe là-dedans. C'est toute la question du tabou. On parlait de santé mentale tantôt, féminicide, c'en est un, mais est-ce qu'on est capable de se dire les choses, puis après ça, de passer par-dessus? Nommer les choses, pour moi, c'est déjà 50% de la réponse.
Parce que vous êtes arrivé à Polytechnique en 92, et puis est-ce qu'à votre départ de l'institution, vous aviez déjà observé un changement de paradigme sur ce que ça évoquait?
Non, pas encore.
Ça a pris combien de temps?
Oh, ça a pris... Moi, je dirais que ça a pris un autre... ça a pris un bon 20 ans à partir de la tuerie, je dirais. Ouais, 2009. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'on a pu commencer à voir ces... ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps.
Puis quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez donc annoncé que vous alliez à Polytechnique? Est-ce que déjà là, les échanges entre votre père et vous étaient déjà à propos de ça? Quelle a été leur réaction, finalement?
Je pense que... Bon, ma mère aurait aimé que j'étudie en économie. Elle disait, je pense que tu ferais une bonne économiste. Mais ils ont... premièrement, c'était davantage pas lié à Polytechnique, mais c'était d'abord lié au génie. Leur réaction, c'est de savoir pourquoi est-ce que je voulais faire du génie. Qu'est-ce qui m'interpellait là-dedans? Qu'est-ce qui m'intéressait? Puis ils disaient, mais au moins, c'est concret. Quand t'es ingénieur, tu peux aller travailler sur le terrain. Encore une fois, cette question de terrain qui revient, tu sais, avec... J'ai dit, tu peux travailler avec du monde, dans des usines, je trouve ça vraiment intéressant. Ils m'ont encouragée, mais sans trop savoir pourquoi fondamentalement c'est ça qui m'intéressait. Et c'est avec le temps qu'ils ont compris. Moi, je me souviens encore, quand j'ai commencé à travailler en usine, mon père me dit, mais t'as l'air de vraiment aimer ça. Je dis, mais c'est vraiment le fun! Et ils comprenaient au fur et à mesure. Donc, ils nous accompagnaient dans nos choix. Hein. Ma sœur et moi, nous accompagnaient dans nos choix. Mais initialement, ils n'ont pas nécessairement compris. Par contre, la question sur le 6 décembre, elle est arrivée assez vite à partir du moment où j'ai intégré Polytechnique avec mon père. Cette conversation-là est arrivée vite.
Et donc, on parlait de vos études en génie industriel. C'est à ce moment-là que vous avez donc développé votre goût pour la prise de parole, l'engagement dans des causes qui vous tiennent à cœur. C'est quoi le lien que vous pouvez faire entre... cet engagement-là, par exemple, à Polytechnique, qui est peut-être plus à l'échelle micro, versus l'engagement que vous faites actuellement, plus à l'échelle macro?
C'est le même. C'est une continuité. À partir du moment où tu décides qu'il y a des causes qui t'interpellent, tu t'engages. Alors, à Poly, où il y avait les étudiants, il y avait... je me suis impliquée dans des enjeux sur l'énergie, sur l'itinérance, la responsabilité des entreprises. Je me suis impliquée sur toutes sortes de sujets. Mais c'est une continuité, c'est une suite logique quelque part. Je faisais mes études et je m'impliquais. Par la suite, je travaillais et je m'impliquais. Et je parle un peu des deux rails que j'ai toujours, sur lesquels j'ai toujours été, sans être capable de les ramener. La politique te permet quelque part de tout faire en même temps. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que tu peux t'impliquer de manière concrète dans des projets, dans la politique, mais en même temps, tu contribues à quelque chose qui est plus grand que toi. Tu contribues à la société.
C'est ce qui vous anime, finalement.
Ben, totalement.
Mais qu'est-ce qui vous suit encore comme ingénieur dans votre rôle actuel?
Ah, mon équipe, ça, vous allez faire sourire mon équipe avec cette question-là. Tu vas faire sourire mon équipe avec cette question-là. Un problème, une solution? Quel est le problème qu'on essaie de résoudre? Quelle est la solution concrète qu'on va y apporter? Je peux être assez méthodique dans mes approches.
Donnez-nous un exemple, par exemple.
On va prendre la santé mentale. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir accès. Ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Il y en a qui sont obligés d'aller au privé. Même au privé, on a des enjeux. Puis les gens, ils ne sont pas remboursés. Tu vas payer de ta poche quand tu vas au privé. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un système où peu importe où tu vas, qui tu consultes, c'est payé par les... Alors, donnez-moi des solutions. OK, mais quand on dit universel, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je vais dire, OK, il y a combien de psychologues au Québec? Combien il y en a au Canada? Quel est le pourcentage? Est-ce qu'il nous manque de psychologues? Tu sais, j'ai posé des questions qui sont très concrètes sur des données pour vraiment formuler des réponses à ces questions-là. Donc, je peux être assez méthodique dans mes approches et très concrète. Alors,
très pragmatique.
Très pragmatique dans les solutions que l'on amène. Puis je déteste, tu sais, des mots, des phrases un peu creuses, là. Puis après ça, OK, mais c'est quoi les données? Quels sont les chiffres? Il y a combien d'entreprises dans ce secteur-là qui sont touchées par ça? Ah, on ne sait pas. On va aller chercher. T'sais, parce que pour résoudre une problématique, il faut vraiment que tu la comprennes.
Mais en même temps, est-ce que ça peut poser problème? Parce que dans votre livre, vous racontez une histoire qui est une histoire. C'est une anecdote. Votre pragmatisme vous a amené finalement à sauver des milliers d'emplois pour Bell Hélicoptère, par exemple. Mais par contre, vous dites que ça avait suscité un peu là, de mécontentement, soit à l'interne, je me suis vu les détails. Alors, est-ce que, premièrement, le pragmatisme chez vous, c'est peut-être une qualité dans certains contextes, par exemple, dans le cas de Bell Hélicoptère, mais quand ce n'est pas partagé par tout le monde, est-ce que ça peut poser problème?
En fait, c'est le degré d'intensité. Cet exemple-là, c'est... oui, c'était pragmatique dans le sens où là, ça n'a pas d'allure, là, on a un enjeu, puis on peut trouver une solution, on va la trouver. Mais tu te rends compte que la vitesse à laquelle tu opères, c'est pas la même vitesse pour l'ensemble de ton écosystème. Puis la réalité, c'est qu'en politique, il faut que tu choisisses tes batailles. Tu peux pas tout faire. Alors, la bataille que tu choisis, là, assure-toi de bien l'amener, mais tu pourras pas toujours faire ça. Il a fallu qu'en 6 semaines, on fasse quelque chose d'absolument renversant, en 6 semaines. Mais tu peux pas conduire toutes les affaires comme ça parce que tu bulldozes, tu tasses, tu bouges, tu piles sur des orteils, etc. Donc, c'est plus ou moins apprécié. Après ça, c'est toujours comme ça que tu te comportes. Il y a des conséquences à ça. Mais ce à quoi tu dois réfléchir, c'est comment est-ce que cette agilité-là dont on a besoin, on est capable de la rendre plus systématique en politique. Moi, c'est beaucoup à ça que j'ai réfléchi. Après, j'ai dit, OK, je ne me suis pas fait trop d'amis dans ce processus-là. J'ai fait la bonne chose. Maintenant, comment est-ce qu'on peut changer les processus pour faire en sorte que c'est juste plus rapide?
Mais est-ce que ça a été confrontant pour toi, justement, ça, de pouvoir te réajuster parce que c'est très... très méthodique, le travail que tu as fait dans des usines, est-ce que ça a été un ajustement, une adaptation qu'il a fallu que tu fasses en arrivant dans l'arène politique?
Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça m'a donné des moyens qui ont permis de régler des affaires vraiment très concrètes. Alors, moi, je vois ça comme un avantage. Est-ce que ça a été confrontant? Ben oui, parce que tu dis, c'est un peu compliqué, comment je vais faire ça? Mais tu es là pour ça. Tu es là pour changer les choses. Tu es là pour faire avancer les dossiers. À un moment donné, je disais, il faut que les gens investissent dans le domaine du manufacturier, etc. Il faut qu'on transforme les choses. Concrètement parlant, voici les entreprises, etc. Donc, je trouve que ça rend la politique plus concrète aussi dans le quotidien pour les gens. Alors, moi, je pense que c'est un avantage et ça te permet, comme je dis, ça te permet de transformer les choses plus rapidement.
C'est ça. Puis donc, pour revenir à l'implication dans ton milieu, à la fin de ta deuxième année d'études en génie industriel à Polytechnique, il y a des élections qui se préparent. Il y a un nouveau président de l'association étudiante qui doit être nommé pour représenter la communauté de plus de 3000 étudiants. Tu te lances en recrutant des personnes qui veulent faire équipe avec toi. Ton adversaire a déjà été président du comité des étudiants en génie chimique. Donc, il est apprécié. Il est d'ailleurs l'un des étudiants les plus populaires sur le campus. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que tu n'as aucune chance de gagner contre lui. Et à ce moment-là, tu vas ménager aucun effort de présence. Tu vas aller à la rencontre de tout le monde. Et on va reconnaître votre élection. Donc, en 94, à 66% des voix. Quand on vous dit là, que Dominique Anglade n'a aucune chance de remporter contre un adversaire, c'est quoi votre réponse, ta réponse à long terme? Est-ce que ça te motive?
Quelque part, ça me motive, sûrement que ça me motive, mais c'est certainement pas un obstacle. C'est certainement pas... quand je me suis présentée à la chefferie du Parti libéral, là, il y a des chroniqueurs qui ont dit « Elle va jamais gagner, telle personne va se présenter, elle gagnera jamais, etc. » OK, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Là. Je veux dire, à la fin, c'est qu'est-ce que tu as à apporter, qu'est-ce que tu as à dire, qui tu as à convaincre. Mais je sais pertinemment que j'ai un travail de fond à faire. Je savais que lors de la campagne à Polytechnique, là, que je pouvais, il fallait que je travaille puis que j'allais à la rencontre des gens. Je savais que je me présentais à la chefferie, là, que ça allait pas être facile. Puis c'est pour ça que je suis partie de bonne heure. Puis j'ai dit, ah oui, tous ceux là, qui ne croient pas en ça. Peut-être une petite anecdote qui n'est pas dans le livre, mais il y a, à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir quand j'allais me présenter à la chefferie. Puis il me dit, Dominique, tu n'as aucune chance, là, vraiment, tu n'as aucune chance. J'ai dit, je vais te le prouver à toi en particulier que je vais être une bonne chef. Puis là, il m'a dit, écoute, en tout cas, tu seras pas mon choix, puis je te dis, ta, 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 ta. Ben, finalement, il est devenu co-président de ma campagne parce que il m'a vu aller, il a vu tout le travail que j'ai fait, etc. J'allais parler de mes idées, puis il m'a dit, hey, là, écoute, tu m'as vraiment convaincu. Mais convaincre, c'est ça aussi, c'est ce travail de fond. Moi, ça me motive beaucoup.
Mais comment on s'y prend? Parce que là, tu parles donc des membres, par exemple, du Parti libéral qui, bon, il n'y a pas eu d'élection comme telle, qui t'aurait élu comme chef du Parti libéral. La communauté de Polytechnique qui a à peu près 3000 étudiants, mais pour une population de 8,4 millions de Québécois, Québécoises, comment qu'on s'y prend?
Ben, je pense que tu utilises les moyens qui sont à ta disposition, tu vas rencontrer les gens. Maintenant, évidemment, je fais de ma manière virtuelle présentement, mais je vais le faire sur le terrain dès que je vais être capable d'aller rencontrer les gens. Tu multiplies les plateformes aussi, mais on est capable de faire des choses avec le numérique, tu utilises ça, il y a les médias traditionnels, il y a toutes sortes de choses que tu peux mettre de l'avant et c'est la meilleure manière de le faire. Et j'ai pas la recette, hein. Je veux dire, si j'avais la recette, ça se saurait. Je veux dire, la réalité, c'est que t'apprends au fur et à mesure aussi. Mais plus tu racontes ce qui t'anime, plus t'es présent, plus tu rentres en contact avec les gens, mieux c'est. C'est sûr, c'est sûr.
À la fin de tes études, tu pars un peu à regret du Québec pour aller travailler 4 ans en Ontario, à Belleville, tout comme à l'usine Procter & Gamble. Tu dis que tu te détonnais. Donc, tu es alors confronté à quatre minorités, donc la langue, le sexe, l'âge et l'origine ethnique. Donc, tu dois faire à ce moment-là tes preuves pour t'affirmer. Est-ce que tu dirais que cette expérience professionnelle-là, mais aussi peut-être d'autres, a contribué à construire l'image de la femme distante qu'on peut se faire de Dominique Anglade quand on la connaît pas?
Ah, j'espère que non. J'espère que non. Non, parce que dans ce volet-là, au contraire, ce que ça m'a permis de faire, c'est de dire, bon, là, j'avais vraiment pas le choix que d'aller à la rencontre des gens parce que j'avais aucune crédibilité. J'arrive là, puis les gens m'ont regardé vraiment. J'ai 24 ans. J'ai 22 ans quand j'arrive. J'ai 24 ans quand ils mettent responsable d'un gros département. Et là, les gens me regardaient, mais c'est qui celle-là? Mais ce que ça m'a beaucoup appris sur comment tu brises des barrières. Comment tu brises la barrière par rapport à la personne qui est en face de toi. C'est surtout ça que j'ai retenu de cette aventure-là. Et pour peu que quelqu'un me rencontre, je suis zéro distante, là, je suis vraiment pas une personne distante, je suis pas une personne très compliquée non plus. Et ça m'a appris comment justement établir ce contact avec l'autre quand la différence elle est totale et comment asseoir une certaine crédibilité aussi. C'est pas juste, OK, tu te pars, on te trouve bien sympathique, etc. Mais comment tu arrives à faire en sorte que cette équipe-là, elle fonctionne, elle est mobilisée, elle livre la marchandise, elle livre des résultats. Ça a été un énorme apprentissage qui n'a pas été facile au quotidien, mais qui m'a marqué pour le reste de ma carrière, ça c'est sûr.
Et donc, toujours à l'extérieur du Québec, quand tu as quitté finalement le Québec, tu es à ce moment-là célibataire. Et lors d'une soirée d'Halloween en 98, tu te rends avec ton amie Geneviève Verdier dans une soirée costumée. Et donc, sans le savoir, tu vas faire la rencontre de celui qui va devenir ton mari en 2004 et aussi le père de tes 3 enfants. L'histoire de cette rencontre-là est pour le moins surprenante. Est-ce que tu peux nous la raconter? Mais les gens qui voudront tous les détails liront le livre, mais est-ce que tu peux nous la raconter brièvement?
En plus, je l'ai rencontrée à Vancouver. Ben, à un moment donné, je pars une fin de semaine. Ouais. J'ai une amie qui étudie à Vancouver, Geneviève, que j'appelle Verdier. Et je pars à Vancouver une fin de semaine. Donc, j'arrive le vendredi, je pars le dimanche matin de bonne heure. Puis le samedi soir, c'est le 31 octobre 98. Et je lui dis, écoute, c'est l'Halloween, on se déguise puis on va quelque part. Puis elle me dit, ben là, où tu veux qu'on aille? On s'en fout, on va trouver un party quelconque sur le campus de l'Université de British Columbia. C'est ce qu'on a fait, on est rentré dans une maison. Je l'ai perdu dès que je suis arrivée au party. Il y avait du monde partout, 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 partout. Puis là, je tombe sur un gars qui me dit, « Do you want a banana? » C'était vraiment une ligne très poche, d'ailleurs. Puis là, je dis, c'est qui ce gars-là, tu sais? Et là, il commence à me parler, il vient d'arriver au Canada, etc. Alors, je lui parle, mais je ne vois pas son visage parce qu'il est déguisé en fantôme. Et je passe des heures à lui parler, mais je ne vois toujours pas son visage. Et il faut que je quitte finalement parce qu'il faut que je retrouve mon ami Verdier parce qu'il faut que je prenne l'avion pour retourner là où j'habitais en Ontario. Et il me donne juste un petit papier avec son nom puis son ICQ number. D'ailleurs, petit papier que j'ai encore avec moi, que je traîne encore dans mon portefeuille.
L'original.
L'original, il est là, là. Il est là, je pourrais te le montrer tantôt. Et je suis repartie, j'ai pris l'avion sans avoir vu son visage. Et il m'a écrit le lendemain, il m'a dit « Ah ben, j'étais bien contente de te voir, etc. » J'ai dit « Ben, moi aussi. » Puis à un moment donné, deux, trois jours plus tard, il dit « En tout cas, c'est l'histoire de deux personnes qui vont se marier puis avoir des enfants. » Je dis, là, c'est un fou furieux, ce gars-là. Là. J'y parle plus.
Il est vite en affaires.
Ah oui, il est vite en affaires. Ça ne m'intéresse pas du tout. Là. Quand, delete, on enlève. Je n'irai plus à mes voir. Mais il continue d'écrire. Il m'envoie des poèmes, etc. Bon, trois semaines plus tard, je retourne là-bas. Comme on dit en anglais, the rest is history. C'est vraiment... c'est arrivé là. Et puis... et voilà, depuis ce temps-là, je suis avec le même gars.
Mais ça a été clair avec lui, par exemple, que tu voulais revenir au Québec. Hein? Ouais. Comment il l'a pris?
Au début, c'était un Allemand qui venait étudier en Colombie-Britannique. Lui, le Québec, tu sais, il ne connaît pas. Bon. Alors, quand je lui explique, quand ça commence à être un peu sérieux, notre affaire, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, je lui dis, gars, moi, je ne veux pas perdre mon temps puis de perdre le tien. Donc, moi, je vais habiter au Québec, je vais élever mes enfants là-bas. Je vais avoir des enfants puis les élever là-bas. Puis là, il dit, OK. Et fait que là, j'ai dit, bien, il faut que tu me dises que c'est ça que tu veux aussi. Il dit, bien, oui, mais moi, je veux. Puis là, il dit, pourquoi je vais décider ça? Il dit, non, parce que si tu décides pas ça, bien, on va laisser tomber notre relation parce que je veux pas perdre mon temps non plus. Puis là, il voyait que j'étais sérieuse. Il dit, ah, OK. OK, comme tu veux, là. Je pense qu'il pensait pas vraiment ce qu'il dit. Elle va peut-être changer d'avis de toute façon.
Mais c'est mal vous connaître. Mal te connaître.
C'est ça, c'est mal me connaître. Alors, j'ai pas changé d'avis. Mais comme je le dis dans le livre, il me connaît depuis ce temps-là.
Ouais, c'est ça.
Donc, on est revenu au Québec et on a eu nos enfants.
Dominique, le 6 décembre 2009, tu prends l'avion pour Miami. Tu te rends à une rencontre professionnelle. Puis on sent dans le livre que tu y vas un peu de reculons. Là, tu y vas pas de plein gré. Tes parents souhaitent te reconduire à l'aéroport. Et sur le chemin vers l'aéroport, ils te demandent, en fait, ils te parlent de leur séjour en Haïti, où ils doivent se rendre dans quelques jours pour participer au Festival Étonnant Voyageur, qui est un festival essentiellement tourné vers la littérature. Donc, ce 6 décembre-là, donc c'est pas seulement le 20e anniversaire de la mort de 14 femmes tuées dans un féminicide à Polytechnique, mais c'est aussi le dernier jour où tu vas voir tes parents vivants. Quel souvenir tu gardes de cette dernière rencontre?
Ah! Je peux difficilement en parler sans avoir les larmes aux yeux. C'est... c'est déchirant. C'est vraiment déchirant. Je vois encore mon père qui met sa main sur... qui pose sa main sur l'épaule de ma mère, puis il s'éloigne, puis moi, je vais passer les douanes américaines. C'est douloureux chaque fois que j'y pense, honnêtement. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est douloureux, c'est... et c'est tellement comme la vie, hein. La vie du jour au lendemain peut changer. Je dirais que ça contraste tellement ce petit moment de bonheur qu'on avait dans l'auto, puis on se taquinait, puis on échangeait, puis cette super relation que j'avais avec mes parents, puis du jour au lendemain, tu sais, c'est parti. Ça te montre aussi la fragilité de la vie. Et même 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, j'en ai encore la gorge nouée. Là, c'est douloureux comme image.
Parce que tu les revois dans ta tête en ce moment, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, en 2009, ça fait pas si longtemps non plus.
Ouais, mais...
Alors, donc c'est frais dans ta tête encore.
Ça reste dans ma tête. Cette image-là, elle reste gravée dans ma tête, puis c'est ça. Puis j'imagine pour n'importe qui vit un moment comme ça, qui perd quelqu'un de très proche, etc., il y a c'est cette différence entre ce moment tellement vivant, tellement réel, tellement fun, tellement humoristique quelque part, puis la mort. Boum.
Et après le 6 décembre 2009, est-ce que, avant le séisme, dont on va parler un peu plus tard, mais est-ce que tu as eu la chance de leur parler de vive voix par téléphone ou vraiment le 6 décembre, c'est la dernière fois?
Non, j'aurais parlé au téléphone. Deux jours avant leur décès, j'aurais parlé au téléphone. Oh oui. C'était probablement autour du 10 janvier. Ils m'écrivaient le 9 janvier des courriels de mon père, 9, 10 janvier.
Tu as gardé, j'imagine?
Oui, je les ai conservés. Il m'écrivait, il me racontait ses trucs, etc. J'aurais parlé deux jours avant. Donc non, j'aurais parlé avant. C'est ce qui rend la chose encore plus irréel quand ça se produit. Je dis, non, attends, ça se peut pas, je vais y parler.
Et donc, Un peu plus d'un mois plus tard, après le 16 décembre 2009, le 12 janvier 2010, vers 16h30, tu rencontres une jeune entrepreneure spécialiste en communication dans la foulée de la mise sur pied du projet de la Fondation Campé.
Campé.
Qui signifie se tenir debout en créole. Et donc, lors de cette rencontre, tu apprends par l'intermédiaire de ton interlocutrice qui a un tremblement de terre que ce quoi Haïti, mais à ce moment-là, tu ne peux pas te douter de l'ampleur. Et peu de temps avant de prendre, donc, par l'intermédiaire de Pascal, ta sœur, que tes parents, Mireille et Georges, et aussi ton oncle Phil et ton cousin Jean-Olivier, qui n'ont pas survécu au séisme, tu t'es dit « Je suis désorienté parce que je ne saisis pas toute l'ampleur de ce qui se passe. » C'est à quel moment que Dominique Anglade a réalisé l'ampleur du drame?
Je pense que c'est... Je pense que c'est au moment où mon amie Anne-V m'appelle, puis je lui dis « Écoute, toutes les maisons sont tombées, mon cousin, on ne sait pas où il est. » Tu sais, je lui décris ça de manière très, très froide parce que tu sais, c'est des faits que je raconte, c'est même pas réel. Puis qu'elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer au téléphone. Puis là, je me dis « Ah, ouais, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. » Et là, tu commences à te dire « Ouais, là ça va être pénible. » Je sens que ça va être pénible.
Parce qu'à ce moment-là, il faut dire qu'on revient à ce que tu disais tantôt, solution, problème-solution, mais là, il n'y en avait pas de solution. Est-ce que ça a été difficile? Parce que là, je me souviens que dans le livre, tu dis, tu parles avec quelqu'un pour essayer d'avoir des nouvelles, mais il n'y a aucune nouvelle qui arrive.
C'est l'incertitude que tu dois gérer. Ça a duré 24 heures, un horrible 24 heures. Ben, je veux dire, un horrible 24 heures. Puis comme la suite a été horrible aussi, donc je ne sais pas si c'est ce 24 heures-là qui est plus horrible que le reste, mais il y a eu des moments où on a pensé qu'il y avait de l'espoir, puis finalement, il n'y en avait pas. Et tu n'as pas d'emprise, t'as pas, tu n'as pas cette attente. Moi, j'imagine des gens qui doivent attendre des mois, des années peut-être pour avoir des nouvelles de quelqu'un qui est disparu. Mon Dieu, ça doit être épouvantable. Cette attente-là, elle est indescriptible, mais bon. Quand la certitude est installée, tu es capable au moins de dire « OK, c'est ça. Voici ce à quoi j'ai affaire. » Puis au moins, je le sais. C'est pas agréable, mais t'es pas dans l'incertitude.
C'est pour ça que tu as fait preuve de beaucoup de résilience. Quand tu as su ce qui se passait, tu demandes à un moment donné à ton mari... qui sortent sur Internet là, le processus du deuil. Puis bon, mais tu as fait preuve d'une grande résilience et en mai 2010, donc quelques mois après le séisme, à la fête des mères, tu te rends pour la première fois en Haïti depuis donc, le séisme. Tu vas dans le Mont-Joli familial, là où tes parents et d'autres membres de ta famille y ont laissé leur vie. Et on apprend avec beaucoup de détails dans ton livre que ça a été très difficile et j'aimerais que tu me lises un extrait qui est quand même assez poignant. Puis j'aimerais l'entendre avec ta propre voix.
Nous sommes à peine 40, la famille proche dans un contexte haïtien. La cérémonie débute avec les paroles apaisantes du prêtre venu nous accompagner. La première chanson à peine entamée, je commence à verser toutes les larmes de mon corps. Je regarde autour de moi, nous sommes tous effondrés. Nous sommes tous occupés à pleurer. C'est curieux, mais de nous voir tous ensemble ainsi me procure un certain sentiment de bien-être. Nous sommes entre nous, dissimulés par la nature, mettant en terre les nôtres, pas une caméra, pas un journaliste, pas un regard indistrait. Nous seuls, 40, dans cette nature florissante malgré le fait qu'elle a été récemment dévastée. Il y a quelque chose d'émouvant à enterrer des morts exactement là où ils sont décédés. C'est l'heure de recouvrir les cercueils. Tout le monde fait quelques pas vers l'arrière, pendant que trois hommes équipés de pelles vont recouvrir ce trou d'une profondeur de 3 mètres. Tout le monde recule, mais moi j'avance, déterminé à voir chaque pelletée de terre afin de faire mon dernier adieu. Je sors de mon sac le paquet au ruban rouge. Personne ne sait de quoi il s'agit. Je m'avance et avant même la première pelletée de terre, je lance le paquet qui tombe entre les cercueils. Janko me demande ce que c'est. Rien, Janko. Rien. Seulement des mots qui leur appartiennent. Le bruit des roches qui frappent les cercueils est assourdissant. C'est le bruit de multiples coups de couteau. À chaque pelletée de terre, mon cœur arrête de battre. Voir la terre recouvrir les tiens est d'un tel déchirement. La séparation réelle et tangible entre toi et eux. Cette terre violente nous sépare à jamais. Plus jamais je ne retoucherai ce cercueil. Plus jamais ils ne seront à portée de moi. C'est l'ultime départ, celui qui fait peut-être le plus mal.
Et donc, tu évoques dans cet extrait-là donc le paquet au ruban rouge, puis les gens qui voudront découvrir qu'est-ce qui contenait finalement ce paquet pourront lire le livre, mais je serais curieux de t'entendre, Dominique. Comment tu découvres Haïti quand tu arrives en mai 2010, donc tu n'es pas retourné depuis le séisme? Raconte-nous comment tu vois Haïti, dans quel état se trouve Haïti?
Ben, Haïti est totalement dévasté à ce moment-là. Mais c'est bizarre parce que Haïti est dévasté, mais il y a toujours ce. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui bougent, il y a tellement de gens qui s'affairent, il y a tellement de. Encore la santé mentale qui me rentre dans la tête parce que je me dis tout ce monde-là grouille partout, etc. Mais au bout du compte, il y a tellement de personnes qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui ont perdu leurs parents, des drames épouvantables qui se sont produits, des gens qui n'ont jamais été retrouvés. Mais chaque matin, le soleil se lève, puis les gens, il faut qu'ils fassent quelque chose de leur vie aussi. Alors, c'est ce contraste entre une Haïti qui vient de vivre un moment épouvantable et la vie qui doit reprendre son cours. Et cet éternel équilibre entre les deux, c'est dur, c'est un pays qui est complexe. Et il y a deux choses qui te marquent, en fait. C'est tellement complexe, c'est tellement dur, il y a tellement de choses à faire que parfois tu te dis, mais comment tu veux faire quelque chose? La tâche paraît titanesque, impossible, rien à faire. Tu sais, c'est tellement gros tout ce qui se passe. Puis d'un autre côté, parce qu'il y a tellement de choses à faire que le moindre geste que tu poses a une incidence. Alors, c'est encore une fois, c'est ce contraste-là. Puis je me disais tout le temps, bien, au moins on est capable de faire telle affaire avec la Fondation Campé, au moins on est capable de faire telle chose de manière très concrète puis d'aider ces personnes-là. Et c'est ça, je pense, que le sentiment qui m'habitait à ce moment-là.
Tu parles de la Fondation Campé, qui est née d'une longue réflexion qui s'est amorcée avec Régine Chassagne, qui est membre du groupe Arcade Fire, bien avant le séisme de 2010, là, que vous avez réfléchi à cette fondation-là. Son objectif est d'aider Haïti autrement, en soutenant les familles haïtiennes les plus pauvres vers l'indépendance financière notamment. Sa mission a pris tout son sens avec le tremblement de terre. Je serais curieux de savoir, Dominique Anglade, de quelle façon le séisme a accéléré le déploiement de la fondation. Est-ce que la fondation, finalement, aussi vous a permis de garder un lien privilégié avec Haïti d'une certaine façon?
L'objectif de la fondation, c'était vraiment de pas d'aller dans l'urgence, mais d'aller dans le long terme. Et il a fallu vraiment se retenir parce que au moment où le séisme s'est produit, tout le monde disait, ah ben voici une fondation, est-ce qu'on peut. Oui, mais notre fondation, c'est pas pour régler l'urgence là, demain matin, essayer d'aller bâtir des campements, etc. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment d'accompagner des familles haïtiennes vers l'autonomie financière. Donc il faut vraiment qu'on s'inscrive dans le long terme. Et Régine et moi, de même que les autres fondateurs de Campé qui étaient là à l'époque, on s'est vraiment tenus puis on s'est dit non, nous on va pas réagir à cet élément d'actualité. Il va falloir qu'il y ait des gens qui pensent au long terme parce que c'est tellement facile de penser à l'urgence. Il va falloir qu'on s'inscrive là-dedans puis qu'on se force à faire cet exercice-là. Donc, on n'a pas accéléré les choses d'un point de vue exécution pour régler les problèmes de court terme. Par contre, c'est sûr que ça a pris une autre dimension. Après le tremblement de terre, le lancement de la fondation, les gens savaient ce qui se passait en Haïti. Je pense que les gens étaient très sensibles à la cause et ça a certainement aidé. Ça s'est vraiment aidé à lancer le mouvement.
Et donc, la fondation est encore actuellement sur
Oui,
pied.
absolument.
Quel lien tu gardes avec cette fondation-là?
C'est comme un bébé. C'est comme un peu un bébé, mais je ne peux plus y participer activement parce que j'occupe des fonctions politiques, donc tu essaies de garder une distance. Mais je suis très attachée. Je suis très attachée aux personnes qui s'impliquent. La directrice générale, le président, les membres du conseil d'administration. Si je peux donner un coup de main, je le donne. Donc, j'y reste extrêmement attachée, puis aussi attachée au type de travail qui est fait sur le terrain, encore une fois.
Tu dis que tu aimais voir tes parents vieillir ensemble, qu'ils étaient beaux à voir et tout. Donc, le fait de savoir qu'ils sont décédés ensemble tous les deux à 65 ans, est-ce que ça a contribué, dans une certaine mesure, à amoindrir tes blessures laissées par leur décès?
Alors, à la blague, je disais toujours, oh, c'est impossible de vous imaginer un sans l'autre, etc. Puis c'est ça que la vie nous a donné, finalement. Le seul baume, c'est qu'ils n'ont pas souffert. C'est le seul boom que je peux. Je veux dire, au moins, là, ça s'est passé en temps de le dire, puis c'est deux dalles de béton qui sont tombées. Il n'y avait rien à faire. Le choc a été brutal, mais ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas à vivre un cauchemar en plus de ce séisme-là.
Mais quand tu retournes sur les lieux, puis que tu vois les décombres, puis tu racontes aussi la manière dont tu retrouves les infrastructures qui sont écroulées, est-ce que ça vient raviver une douleur encore plus intense?
C'est sûr. C'est sûr, parce que tu vois concrètement ce qui s'est passé, tu vois les maisons qui sont tombées.
Décédés?
Tu vois où ils sont tombés. Ah ouais, ça vient te chercher. Alors, tu as toutes sortes d'images qui circulent dans ta tête, là, c'est sûr.
Et donc, ce lieu qui a finalement été détruit par le séisme, on a dit, quand le séisme est survenu, on a dit que 10 ans devraient être nécessaires pour reconstruire le pays, spécifiquement Port-au-Prince, vu l'ampleur du désastre. Et donc, plus d'11 ans après les événements, c'est quel portrait que tu dresses d'Haïti, là, a posteriori?
Il est très difficile parce que c'est, encore une fois, un pays complexe avec encore de l'instabilité politique, avec encore un président qui a énormément de problèmes à gérer la situation, une démocratie qui est mise à mal avec des personnes qui... une liberté d'expression qui n'existe pas comme elle devrait exister. Alors, beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais je dirais la chose suivante, c'est que mon père disait souvent, il y a le pessimisme de l'intelligence parce que tu vois que ça va mal, etc., puis que tu te rends bien compte de la situation, mais qui affronte l'optimisme de la volonté, puis il y a encore des gens qui veulent beaucoup. Alors, je pense que c'est sur cette note optimiste-là qu'il faut insister.
Et géographiquement, au niveau des infrastructures, c'est quoi le portrait que tu dresses d'Haïti?
Il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui doivent encore être transformées. Mais c'est pour ça qu'il existe des organisations comme Campé, c'est pour ça qu'il existe des organisations qui se battent au quotidien sur le terrain. Puis ça, il faut jamais lâcher.
Quand la dernière fois que tu t'es rendu en Haïti?
En 2017.
OK, donc
il y a ça fait plus
4 ans.
Ouais.
Dominique, en terminant, à la fin de ta biographie, tu reviens sur la défaite historique de ta formation politique en 2018. Tu dis qu'elle t'a servi de leçon. Et qui est primordial de rester connecté à la réalité des citoyens et des citoyennes. Et tu parles aussi de la réconciliation des régions que tu veux faire, qui est déjà amorcée d'ailleurs. Comment tu vas faire, Dominique, pour regagner la confiance des Québécois et des Québécoises? Parce que même à un moment donné dans ton livre, tu dis, tu arrives ministre dans un gouvernement qui est déjà bien en selle en 2015, donc c'est pas nécessairement tes décisions, tout ça. Et puis, à un moment donné, tu ressens même à l'interne que c'est difficile. Hein, que...
Oui.
Mais comment tu peux regagner la confiance des Québécois, des Québécoises qui ont pu trouver ça très difficile, les décisions de ta formation politique?
Bien, reconnaître les erreurs du passé, être terrain, 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 être à l'écoute de ce qui se passe, proposer des choses aussi. On parle de charte des régions, par exemple, qu'on veut mettre de l'avant. Des idées qui émanent justement du terrain. C'est comme ça qu'il n'y a pas de miracle dans la vie, là. Je pense que c'est d'abord et avant tout comme ça que tu bâtis la confiance avec toutes tes régions, avec toute la population. Donc, c'est un geste à la fois, une rencontre à la fois, des propositions concrètes. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrive.
Dominique Anglade, merci beaucoup pour ce grand entretien. Puis j'invite les gens donc à lire Dominique Anglade, Ce Québec qui m'habite, qui est publié aux éditions de Libre Expression. Alors, merci beaucoup pour ce grand entretien, Dominique.
Merci beaucoup à toi. Très apprécié.
Merci. Dans le prochain épisode, ne manquez pas un grand entretien avec celle qui ose déranger, Jocelyne Cazin.
Le balado Les grands entretiens du Salon des aînés de Saint-Jérôme vous a été présenté par les sentiers Magnus Poirier et par station7.ca.